Le mag sport avec Loïc.
Et bonsoir, chers amis sportifs, bienvenue sur l'antenne de Radio Albigès pour votre mag sport du 1er septembre 2017. Au menu de votre mag aujourd'hui, vous aurez de la marche nordique, du quad cross à Castelnau-de-Vévis, du foot avec le premier match des filles SPT à la maison face à Montpellier, mais aussi l'interview exclusive de Laurent Lejeune, président du SLB, l'équipe de France à Toulouse et les dernières infos mercato du TFC. Mais pour commencer ce mag sport, intéressons-nous tout d'abord au rugby avec le CO qui reçoit demain pour son premier match à la maison de top 14, l'Union Bordeaux-Bègles. Mais bien sûr, avant cela, revenons tout d'abord sur le petit monde du Sporting Club albigeois. Will, jingle. OSCA, on attaque la dernière ligne droite de préparation estivale en vue du nouveau challenge qu'attend les Jaunes et Noirs, la Fédérale 1 Elite. Depuis le 10 juillet, sous la houlette d'Arnaud Mella, Jérémy Vanin et Kevin Boulogne, les joueurs albigeois tentent de se remettre sur des rails positifs pour laver dès cette année l'affront de la relégation et retrouver immédiatement la Pro D2, place naturelle de ce club. Après une défaite encourageante début août lors du challenge Vaquerin face à Aurillac et un stage en altitude à Luchon, les Albigeois s'étaient présentés au public le 22 août dans un esprit bon enfant face à leurs aficionados. À cette occasion, nous avons pu avoir le nouveau président du CA, Alain Roumégoux, qui avait laissé transpirer son enthousiasme après cette manifestation conviviale entre les fans et les joueurs. On l'écoute.
Nous sommes avec Monsieur Alain Roumégoux, nouveau président du Sporting Club albigeois pour cette saison 2017-2018. Monsieur Roumégoux, bonsoir. Merci d'être à notre micro. Alors, on a vu qu'il y a eu une présentation qui a été faite de cet effectif New Look, on va dire, version Arnaud Mella, dans une ambiance assez bon enfant. Vos impressions à chaud?
Écoutez, j'ai espoir. Comme je vous l'ai dit, on part avec un nouveau staff, beaucoup de nouveaux joueurs, plus de 60% de renouvellement. Et donc on a une équipe jeune, aussi bien au niveau des entraîneurs, à tout niveau, et des joueurs. Mais vu l'implication qu'ils donnent, vu l'ambiance qu'il y a, je suis quand même assez confiant au niveau sportif. Et puis bien sûr, c'est le terrain qui va commander. On verra donc l'ordre des premiers matchs. On va bien tout sûr D'abord commencer par les matchs amicaux à domicile pour les deux matchs à venir.
Donc vendredi. Ensuite,
donc ce vendredi, bien sûr. Et après, bien sûr, le début du championnat qui va démarrer donc le 10 septembre.
Et au niveau des supporters, on sent qu'il y a peut-être un réamorçage d'ambiance, on sent que ça commence à revenir doucement. Qu'en pensez-vous?
Écoutez, avec le soutien de Julien Reynaud, on a voulu réconcilier tout le monde. Bon, écoutez, c'est bien parti. Tout le monde est revenu dans l'enceinte du stade, donc tout se passe bien. Et puis j'espère que ça va revenir comme avant et qu'on aura plus on va oublier ce qui s'est passé l'année dernière.
Bon, ben, on vous souhaite bon courage et bonne chance pour la saison 2017-2018 en espérant vous retrouver prochainement avec la gagne au bout et la victoire et le sourire de nouveau.
Ben, je vous remercie. Et puis écoutez, j'espère vous donner rendez-vous l'année prochaine sur ce stade en Pro D2.
C'est tout le mal qu'on souhaite au SCA.
Merci.
Au revoir.
Quelques jours après, vendredi dernier pour être plus précis, les Albigeois recevaient dans leur rentre du stadium les joueurs de Cognac Saint-Jean-Négély. Malgré une victoire 21-12, tout ne fut pas parfait dans ce match où la large revue d'effectifs mixée au contre-coup logique de la prépa physique a laissé entrevoir des jaunes et noirs encore en rodage et quelquefois un brin poussif. Mais de belles choses ont été entrevues aussi entre la jeunesse désinhibée albigeoise, amenée par les Doan, Faré, Pires, Armengo et consorts, qui a montré au staff et au vestiaire albigeois qu'il tapait au portillon et qu'il faudrait compter avec eux cette saison, et un réalisme à toute épreuve qui pourrait être fort utile cette saison lors des périlleux dépassements qui les attendent. Les sources de satisfaction, excusez-moi, étaient belles et bien là. Autre motif de satisfaction, la touche qui a été exemplaire tout au long du match et la conquête qui fut un vrai meilleur et de meilleure facture en seconde période. Mais un des éléments essentiels et qui va mettre du baume au cœur de certains supporters, c'est l'état d'esprit des joueurs, qui malgré la difficulté et la fatigue n'ont rien lâché, préfigurant un ressort psychologique assez puissant dans ce groupe. Thibaut Bismann, notre micro, avait une analyse assez similaire, on l'écoute.
Thibaut Bismann, bonjour. Vos impressions à chaud après cette victoire, on va dire un peu à réaction, un petit peu laborieuse?
Oui, oui, c'est sûr qu'après ce match, ça nous permet de garder les pieds sur terre et de nous dire qu'il y a encore beaucoup de travail. Maintenant, je pense qu'on travaille quand même bien tout au long de la semaine et tous ensemble. Bon, il y a quand même la victoire au bout, donc c'était l'essentiel. Maintenant, je pense que voilà, tous les joueurs, ils ont quand même pas, on n'a pas tous sauté de joie ce soir parce qu'on sait qu'il va falloir faire beaucoup mieux tout au long de la saison. Mais ça reste encourageant. Il y a quand même 2-3 séquences où des fois, on s'est forcé aussi à jouer dans notre camp exprès pour mettre un peu de rythme et voir un petit peu de quoi on était capable à ce niveau-là. Mm-hmm. Je pense que sur des matchs un peu plus structurés, où quand l'opportunité se présentera, on la jouera, où on occupera un peu plus aussi pour rendre le match un peu plus précis et structuré, quoi. Donc du coup, après je pense qu'il nous reste encore pas mal de choses à bosser.
Et la prépa physique a dû peser un peu dans les jambes et dans les organismes.
Oui, totalement. D'après le prépa physique, c'est normal qu'on soit fatigué. Bon, maintenant, c'est pas une excuse non plus par rapport à certaines choses. Donc du coup, comme je l'ai dit avant, ça nous permet de rester humbles tous et continuer à bosser dur. Et ça prouve aussi qu'on va avoir besoin de tout le monde et que c'est collectivement qu'on va faire une belle saison.
Pour finir, vous savez, on sait que vous avez eu un petit pépin physique, vous avez pris une béquille dans la semaine, ça va mieux, tout roule.
Oui, ça va. Ça ne m'a pas empêché de faire le match aujourd'hui ou de faire quoi que ce soit à ce niveau-là, pas de problème.
Après cette réaction toute en lucidité de Thibaut Bismann, attardons-nous sur ce match de ce soir à 20h au stade municipal face à des voisins vauréens en pleine de confiance. Ce match face à une équipe de Lavoir qui en outre disposera de 3 anciens Bigeois, en l'occurrence Cueil, Durand et Tuncer, risque d'être fort engagé. Engagé comme un dernier, me direz-vous, mais pas que. Engagé surtout car Lavoir était sur une saison fort bien réussie l'année dernière et arrive plein de confiance et d'envie. Quant aux Albigeois, ils auront à cœur de montrer l'étendue de leur potentiel devant un public albigeois qui peut vite s'impatienter. Un match qui, de l'aveu d'Arnaud Mella, lui-même, dans les colonnes du Tard Libre, et de sa volonté, car je cite, « Les Vauréens ne vont rien lâcher, ça va être un match accroché, similaire à ce qu'on pourra retrouver la semaine prochaine à Chambéry pour la reprise du championnat. Car, comme le disait toujours le manager sportif jaune et noir dans les colonnes du journal local, contre Cognac, on a manqué un peu de précision, de libération propre dans les phases de ruck, mais il y a des joueurs qui ont fait un très bon match. Croisé au sortir de l'entraînement de hier, Jérémy Vanin, le nouveau catch adjoint USCA, nous tenait le même discours. On l'écoute. Jérémy Vanin, bonjour. Vous êtes le nouveau coach adjoint du SCA. Après une longue parenthèse au sein de la Fédération française de rugby, vous revenez aux sources dans votre club de cœur. Mis à part, on va dire, ce côté sentimental, qu'est-ce qui vous a amené à venir entraîner le SCA, surtout que vous arrivez après une saison qui a été, on va dire, un peu compliquée, il y a tout à refaire. Qu'est-ce qui vous a motivé pour ce challenge ?
En effet, après donc une parenthèse à la Fédération pendant 10 ans, Arnaud m'a contacté il y a plusieurs mois pour partir dans cette aventure. On se connaissait de l'époque où il était à Albi et moi aussi. Et j'ai regardé de très loin les petits soucis qu'il y avait eu dans le club l'année dernière. Mais ça a été une motivation supplémentaire pour moi de venir dans mon club de cœur, mon club de naissance, pour essayer de reconstruire une aventure avec un nouveau groupe, des nouveaux entraîneurs, des nouveaux dirigeants. C'était une occasion pour moi aussi de changer de trajectoire professionnelle, de passer de la fédération à un club professionnel. Donc beaucoup d'éléments et d'arguments qui m'ont fait aller vers ce choix du Sporting Club Albigeois.
Après une préparation entamée dès le 10 juillet, vendredi dernier, on a eu droit au premier match à la maison devant le public. Ça a été un peu laborieux, un peu poussif, mais qu'est-ce qu'on peut en retenir de ce premier galop d'essai, on va dire ?
Mais c'est un premier galop d'essai, oui. On était toujours sur une revue d'effectifs des joueurs, puisqu'on avait choisi de partir à 46 joueurs, voire 47 sur la préparation, et avec aussi comme leitmotiv d'intégrer au maximum les jeunes issus du club et de la formation du club au sein de la préparation, et voire plus pour la suite. Alors tout n'a pas été parfait, c'est une certitude, mais quand on renouvelle 50% de l'effectif, qu'on arrive avec un nouveau projet de jeu, on ne peut pas être parfait. Il faut créer des automatismes, ce qu'on s'attache à faire. On est bien conscient que tout n'était pas parfait, on sait la marge de progression qu'on a, et puis voilà, on va dans ce sens. On a travaillé cette semaine sur les automatismes, comme vous dites, pour essayer de régler un petit peu ça. Et puis, il n'y a qu'une chose à espérer et à penser, c'est qu'il y ait une amélioration sur le deuxième match, qu'on arrive à se trouver. On a réduit le groupe à 26 joueurs, en vue, bien sûr, du premier match à Chambéry.
En plus, dans ce premier match à la maison, on a vu quand même qu'il y avait, dans les sources positives, des jeunes qui tapaient à la porte, qui avaient beaucoup d'envie.
Et ça, c'est vraiment une satisfaction. On a des jeunes issus de la formation albigeoise qui sont bons, qui ont du potentiel, qui sont accompagnés et encadrés par les anciens, et ça c'est une très bonne chose. Donc on a réussi quand même à avoir un mélange d'anciens, de petits jeunes issus du club. Maintenant à eux de faire leurs preuves sur le terrain pour pouvoir intégrer l'équipe professionnelle. Mais on a des bons espoirs quant à ces jeunes qui arrivent, et on aura aussi besoin d'eux. C'est clair qu'il va falloir aussi compter sur eux, puisqu'on n'a pas un effectif pléthorique non plus pour cette saison. Donc il faudra compter sur eux, et on compte bien en intégrer rapidement.
Une dernière petite question. Dans ce derby amical face aux voisins vauréens, quelles sont un peu les consignes que vous avez données à vos hommes aujourd'hui pour ce dernier entraînement ?
Alors, les consignes, elles vont être de d'oser le niveau d'intensité et d'agressivité un petit peu, puisque on n'a pas pu mettre en place tout ce qu'on a voulu, parce que Cognac, l'équipe de l'entente Cognac Saint-Jean-d'Angély, nous a cassé un peu les pieds dans les rucks.
C'est assez agressif.
Ils étaient assez agressifs dans les rucks, et on n'a pas encore pointé du doigt ce domaine-là avec nos joueurs. Donc bien sûr, on va essayer de répondre présent à ce niveau-là, afin de pouvoir mettre en place le projet et la circulation qu'on travaille avec les joueurs.
Surtout qu'il y aura sûrement une équipe qui se rapprochera de plus en plus de celle qui va débuter à Chambéry.
Exactement, et je pense aussi qu'on aura une opposition de qualité, et peut-être de meilleure qualité, puisque Saint-Jean-d'Angély-Cognac était aussi, comme nous, en recherche de repères. Là, on a une équipe qui est sur une bonne dynamique de la saison dernière, et quoi de mieux pour eux que de venir embêter les Albigeois, les voisins albigeois. Donc on s'attend à une grosse opposition, et bien sûr, on prépare largement le déplacement à Chambéry de la semaine prochaine.
Merci pour cette interview, et en espérant vous retrouver vendredi soir avec la gagne.
Avec plaisir, merci beaucoup.
Au revoir. Pour ce match, malgré l'aveu du staff qui hésiterait encore sur 4 ou 5 joueurs, l'ossature de l'équipe va commencer à se dessiner, même si quelques joueurs sont malheureusement à l'infirmerie, dont Maniaval, Cormenier, Casals, mais aussi Benoît Sicard, qui devait voir un spécialiste cette semaine, et plus embêtant, les secondes lignes Namoni, Tonga et Mathieu André, respectivement blessés aux côtes et au dos. Quant à Christophili, qui a littéralement crevé l'écran vendredi dernier face à Cognac, il est laissé au repos. Du coup, la composition de départ sera la suivante. Pilier gauche, l'enfant du pays et chouchou du public, Bastien de Dieu. Olé sera au talonnage, tandis que Toetou viendra avec son gabarit et son expérience caler la mêlée. La ligne de seconde barre sera composée de Gianni Gaillard et Ruslan Boukerou. En troisième ligne, nous retrouverons le jeune Paul Faré, associé à Tavalea, le vice-capitaine, et à Calas, dont le retour ravit les travées du stadium. À la mêlée, le jeune Martin Doan, excellentissime vendredi, gagne une seconde chance de s'imposer comme une réelle alternative, tandis qu'il sera accompagné à l'ouverture par le capitaine albigeois Romain Barthélémy, qui d'après moi risque d'être des plus motivés pour montrer l'étendue de son talent sur ce match. Sur les ailes, nous retrouverons Navarro, qui a marqué des points lors de la prépa, et le jeune Louis Decroix sur l'aile droite. Au centre, c'est la solide paire Vassoui Nubu et Gaëtan Bertrand qui officiera avec serrement pour ce dernier un brin d'émotion à l'heure d'affronter son ancien club. À l'arrière, Thomas Lassel tiendra un rôle où il a montré de belles dispositions vendredi dernier, devant un public qui n'attend que des belles envolées de cette équipe jaune et noire. Le banc sera composé de Sevestre, Feltrin, Navro Zadjvili, Nistor, Faré, Wetton, Bisman, Caminati, Ollier, Vergnon et Mathieu Peluchon, qui effectuera son retour après avoir été ménagé ces dernières semaines. Les joueurs albigeois vont affronter ce dernier opus de match prépa avec la volonté de rendre une copie propre, mais lors de l'entraînement de hier, certains cadres sont venus me trouver pour nous faire part que des critiques concernant la prestation de certains cadres et leur état des formes dans cette émission et dans les colonnes urbinistères les avaient touchés, voire affectés. Nous nous en excusons auprès d'eux, car le but n'était point de les dévaloriser ou de les blesser, mais tout simplement de retranscrire un sentiment et une analyse de ce match en toute objectivité. Mais j'entends bien le message du staff et des joueurs qui, dans un état d'esprit, qui montre que le ciment qui les lie est en train de prendre fortement, et que cet effectif est se créer une bulle protectrice pour affronter le challenge qui les attend, la remontée. Mais je dis à ce groupe que je vois soudé à ma plus grande joie et dont je sens la détermination, je leur dis, j'espère qu'ils me prouveront ce soir, que je me suis trompé la semaine dernière et qu'ils nous feront tous rêver de nouveau et bondir dans nos sièges. Allez les gars, ne vous formalisez pas pour une note dans un match par un suiveur. Supporters albigeois, suiveurs, journalistes, sont de tout cœur avec vous et on n'attend plus qu'une chose, que vous nous fassiez de nouveau vibrer. Réponse ce soir à 20h au Stadium avec, espérons-le, la gagne. Pour conclure sur le Sporting, on va dire, passons maintenant brièvement aux coulisses avec un sujet qui alimente les discussions du château et de la direction, le budget. Will
Jingle.
C'est l'or. Il est l'or. L'or de se réveiller. Monseigneur, il est 8 heures. Oui, oui, oui.
Il en manque une.
Vous êtes sort ?
Tout à fait sort.
Ah, ben ça alors ?
Eh oui, à des voix faux d'avoir un stade des 7 deniers comme à Toulouse, à Albi, on est plutôt au stade de la recherche des deniers. En effet, cette semaine s'est tenu un conseil d'administration exceptionnel avec, à l'ordre du jour, un tour de table pour trouver monnaie sonnante et trébuchante. Car la pénurie d'abonnements, selon certaines infos entre 350 et 500, contre 1200 à 1400 l'an passé, couplée à la défection de certains partenaires, laisse le Sporting devant un avenir financier en suspens. C'est pour cela que, selon des sources très très fiables, dans cette volonté de venir au soutien de leur club de cœur, et après de nombreuses consultations durant l'été, des personnes ayant le SCA chevillé au corps s'attellent à monter un club de socios dans le but de fédérer de nouvelles énergies et surtout de soulever un actionnaire populaire rendant les supporters acteurs à part entière de leur club. Et donc nous pouvons vous annoncer que hier, dans la périphérie albigeoise, s'est tenue une réunion, une première réunion de travail informelle pour poser les jalons de ce socios club qui pourrait très prochainement révolutionner le petit monde du Sporting Club albigeois. Affaire à suivre de très près et que nous ne manquerons pas de vous développer. Passons au top 14 où le CO va étrenner demain après-midi sa nouvelle tribune Francis Ruiz, puis rebaptiser son stade au nom de son mécène disparu récemment Pierre Fabre et lancer sa saison à domicile en top 14 face à l'UBB, l'Union Bordeaux-Bègles. Après une défaite rageante sur le gong chez un des favoris championnat, le Racing 92, en ouverture le week-end dernier du top 14, les joueurs du CO auront à cœur de montrer à leurs supporters que cette saison encore, il faudra compter avec les castrés. Allez, tous rendez-vous à 18h45 à, nous l'appellerons une dernière fois comme ça, le stade Pierre-Antoine pour ce match face à Bègles-Bordeaux qui doit lancer la saison du CO. Maintenant, passons au foot. Jingle foot. Tout d'abord, comme vous avez pu le voir hier soir, l'équipe de France a étrié les Pays-Bas en éliminatoire de la Coupe du Monde en Russie, 4-0, reprenant de ce fait la première place de leur poule. Les buteurs sont Antoine Griezmann, Thomas Lemar par deux fois et la jeune pépite néo-parisienne Kylian Mbappé. Mais sachez que ce week-end, les Bleus débarquent à Toulouse pour le deuxième match de cette session éliminatoire face au Luxembourg. Alors, amis d'Occitanie, même si les Bleus, pour des raisons sécuritaires bien compréhensibles, ne seront que très peu visibles dans la ville rose, tous au stadium dimanche à 20h pour porter nos joueurs de l'équipe de France jusqu'à la Coupe du Monde en Russie cet été. Et allez les Bleus! Au TFC, le mercato s'est fini hier à minuit avec la signature de l'ancien Marseillais Gianelli Imbula qui vient de Stoke City en prêt pour une saison. Avec cette dernière signature, le mercato tefciste commence à avoir belle allure et l'entrejeu toulousain prend une nouvelle dimension. Vivement la fin de la trêve hivernale pour voir ce que ce TFC New Look a dans le ventre. En foot féminin en Division 1, c'est la reprise pour les filles de l'ASPTT qui entame une quatrième saison consécutive dans l'élite du foot féminin. Face aux vice-championnes de France Montpellier, les filles de Théodore Genoux et Patrice Garrigue auront fort à faire devant leur public pour contenir Sakina Karchaoui et ses coéquipières dans ce premier match officiel de la saison. Les joueuses et le staff de l'ASPTT comptent sur vous dimanche 15h au Stade Rigaud pour venir les encourager dans ce match que l'on peut considérer d'ores et déjà de gala. Passons maintenant à l'US Albi, où son président nous a fait l'honneur et la joie de nous accorder ce matin en exclusivité une petite interview. On l'écoute. Chers auditeurs, nous sommes avec Laurent Lejeune, président de l'US Albi, avec qui nous allons brièvement parler de son club et de ses ambitions pour cette saison 2017-2018.
Monsieur Lejeune, bonsoir. Merci d'être à notre antenne. Pour commencer, revenons un peu en arrière. On vous avait laissé fin juin dans un bras de fer avec la mairie concernant la baisse des subventions allouées à votre club. Mais au final, sur le gong, vous avez réussi à sauver votre club. Pouvez-vous nous expliquer comment s'est déroulée cette véritable partie d'échecs entre l'US Albi et la ville d'Albi?
Alors, c'était bonjour à tous. C'était pas évident de renouer le contact avec la municipalité au départ, puisque celle-ci fige les subventions et les aides financières au mois de décembre. Donc, en cours d'année, c'est toujours très difficile pour eux de réviser leur position. Donc, nous avons démontré que l'US Albi, ce n'était pas qu'une équipe senior, c'était vraiment un club dans son intégralité, avec notamment les jeunes. Et la subvention, on va dire, complémentaire a été attribuée notamment pour les résultats de l'école de foot, aussi bien des tout petits jusqu'aux 19. Donc voilà, on a été satisfait de cette reconnaissance.
Subvention, si je ne me trompe pas, qui est de l'ordre de 21 000 euros, c'est ça ?
21 000 euros, tout à fait. Oui.
D'accord. Alors maintenant que vous êtes rassuré sur la pérennité de votre club, quelles sont vos ambitions lors de la saison 2017-2018 et vu que la qualité de votre formation a été mise à l'honneur, comptez-vous mettre encore plus l'accent sur cette école de foot ?
Alors, on va rester sur cette même lignée, tout à fait, par rapport à la formation. Simplement, on a une inconnue qui est relativement importante, c'est le niveau du championnat DH, puisque aujourd'hui, Blagnac, Luzenac, Castanet, notamment Rodéo, ne sont plus dans cette poule. Ils ont rejoint le National 3 depuis un ou deux ans et trois ans pour d'autres. Donc, on n'a pas vraiment de repères vis-à-vis de la qualité des autres équipes. Alors, voilà, on a commencé prudemment à Revel, mais on mise cette année tout particulièrement sur le haut tableau avec l'équipe 1.
Essayez de faire la bonne surprise.
Ce serait bien, mais on a encore un peu de mal à l'évaluer. Je pense que d'ici 2-3 journées, on saura un petit peu plus sur nos qualités et éventuellement sur nos manquements et la possibilité peut-être de se renforcer encore puisque nous n'avons pas encore de unité hors période en fait.
Okay. Concernant l'équipe 1, après une première saison où il est arrivé au pied levé lors de la trêve hivernale, vous avez reconduit votre confiance au coach Julien. Quelle feuille de route lui avez-vous fixée et quel est votre mode de fonctionnement avec votre coach ?
Alors, ce début de saison, c'est très simple. L'objectif prioritaire, c'est la Coupe de France. Mmh. Et notre objectif principal sur cette première période de saison, puisque c'est la seule compétition hors du championnat qui nous intéresse. Donc, nous avons donné pour consigne au coach de faire son maximum et de construire notamment un groupe qui soit dans la même attente et dans la même dynamique que les dirigeants. En fait.
Vous essayez de faire un petit coup en coupe, essayer de passer quelques tours?
Oui, tout à fait. Je crois que on l'a vu l'année dernière avec le 19 en Gambardella, donc en Coupe nationale pour les jeunes. Ça crée de l'engouement et ça permet également aux joueurs d'avoir une compétition relevée, de jouer contre des joueurs qui sont à un niveau plus élevé. Donc c'est une très bonne dynamique pour l'ensemble du groupe, aussi bien dirigeants que joueurs en fait.
Ok. Donc, pour passer sur un autre sujet, comme à chaque intersaison, ce que nous appellerons votre petit mercato est en cours. Certains cadres sont partis, mais à défaut d'avoir fait signer Neymar, vous avez quand même effectué un recrutement en adéquation avec vos ambitions. Pouvez-vous nous en dire un brin plus ?
Alors c'est une période qui est assez difficile, on doit dire désormais pour le recrutement en DH, notamment parce que l'offre toulousaine en termes de championnat est vraiment importante. Donc on recrute des joueurs qui sont motivés par le projet et c'est surtout sur cette voie qu'on engage les relations et on va dire les petites négociations, hein. Bien sûr pas à la hauteur des Neymar, vous imaginez bien, mais oui, je pense que là ce serait le principe reste le même en dehors de l'argent, bien sûr, c'est qu'un joueur a envie de jouer et a envie de savoir quels sont les objectifs sportifs du club. Après, l'aspect financier, effectivement, pour le monde pro est important. Pour nous, c'est d'abord des objectifs sportifs. Et là, on arrive à avoir l'adhésion de nouveaux joueurs, des jeunes joueurs. Et on a gardé, comme je disais aussi tout à l'heure, presque l'intégralité de nos U19. Donc, réussir à les intégrer également dans l'effectif senior 1 et 2. En fait.
Prima la jeunesse, dirons-nous.
Ben, oui, parce que vous le voyez dans le monde professionnel hier, hein, la moyenne d'âge des joueurs, c'est plutôt vers les 20 ans. Donc, le monde amateur ne doit pas non plus souffrir de cet antijeunisme. On doit être justement favoriser l'éclosion des joueurs, quitte à les voir partir. Et comme on l'a vu avec un de nos joueurs l'année dernière qui a signé au TFC, mais c'est de bonne guerre.
C'est
on se doit nous en tant que bien sûr, pour le club, pour le département également, parce que ça montre que le football a toujours sa place et voilà, nous essayons de fédérer toujours autour du ballon, après autour de l'US évidemment, mais pas que aussi autour du ballon dans sa globalité en tout cas.
Ok. Une dernière petite question, une petite réaction sur votre premier match de championnat et ce nul 1-1 face à Revel, est-ce une déception ou un premier galop qui laisse entrevoir de belles promesses?
Alors, je dirais que c'est un savant mix des deux, c'est-à-dire que c'est satisfaisant parce que le groupe s'est retrouvé à 10 très rapidement sur une faute qui était réelle, hein, qui était ce qu'on appelle aujourd'hui une atteinte physique à un joueur. Donc, même si ce n'était pas méchant de la part de notre joueur, mais il y a eu quand même blessure, donc derrière, ça engendre automatiquement une exclusion. Donc, satisfait parce que le groupe s'est bâti. Et en même temps un peu déçu parce que réaliser ce genre de geste qui peut être dangereux, ça montre que notre formation doit être plus complète et aussi amener les joueurs à comprendre quelles sont les règles du jeu dans sa globalité et pas simplement les règles de base qu'on connaît, puisque depuis quelques saisons on voit que tous ces gestes sont sanctionnés, donc préjudiciable au niveau
de l'image du club aussi.
Tout à fait, et puis de la compréhension tout bonnement de la compétition et du respect de l'adversaire. Donc quand c'est comme ça, on est pénalisé doublement, mais c'est mérité. On est vraiment pas dans un débat si c'est bien ou si c'est mal, mais c'était mérité. Maintenant, ça montre que le groupe a besoin de grandir encore un petit peu, de prendre en maturité également, parce que même à 10, on se doit de faire un petit peu mieux encore.
D'accord. Mais merci beaucoup, monsieur Lejeune, de nous avoir accordé quelques minutes pour nous présenter vos ambitions pour cette saison 2017-2018 pour l'US Albi, et en vous souhaitant toute la réussite nécessaire à vous et à votre équipe pour aller au bout de vos ambitions.
Merci beaucoup, à très bientôt.
À très bientôt, au revoir.
Au revoir.
Encore un grand merci à monsieur Lejeune, président de l'US Albi, qui est venu nous donner sa feuille de route pour la saison 2017-2018 et qui, malgré une fin de saison, une intersaison compliquée financièrement due à un imbroglio financier avec la mairie, a réussi à se battre pour que continue à vivre l'US Albi.
Le Mag Sport avec Loïc.
Passons maintenant à deux petites brèves. Tout d'abord, la marche nordique qui reprend ses droits ce jour à 18h, donc pour tous les passionnés de marche nordique, n'hésitez pas à prendre contact avec ce club et vous déplacer pour aller voir ce qu'ils font. Dès aujourd'hui, c'est la reprise des activités et ils vous attendent les bras ouverts. Seconde petite brève, pour nos amis Carmozenc et Blayet, la fête du sport du Carmozenc se déroulera dans le village de Blaye-les-Mines ce dimanche 3 septembre durant toute la journée. Là, pareil, n'hésitez pas à vous déplacer pour aller fêter avec nos amis Blayet le sport. Maintenant, passons au motocross où va se dérouler ce week-end du 3 et 4 septembre le motocross de Casserneau au circuit de Puech-Rampin. Et nous avons eu cet après-midi, en tout début après-midi, la joie d'interviewer son président, Alain Bossebeuf. Nous l'écoutons.
Nous sommes à Castelnau, au circuit de Puech-Rampin, avec Alain Bossebeuf, président du motoclub de Castelnau-Lévis, qui va nous présenter un peu cette nouvelle manifestation de rentrée avec ce quad cross des championnats d'Europe.
C'est bien ça, c'est donc ce week-end des 2 et 3 septembre que va se dérouler la demi-finale du championnat d'Europe de quad cross 2017 sur le circuit de Puech-Rampin. Ça va commencer dès demain midi avec les essais libres du quad cross. Ensuite, toute l'après-midi vont se dérouler les épreuves du challenge Midi-Pyrénées côté motocross. Et en fin d'après-midi, il y aura les qualifications du championnat d'Europe de quad cross de 18h30 à 19h. Et dimanche, essais le matin et alternance de compétition à partir de 11h entre le motocross et le quad cross. Il faut savoir que les deux manches du quad cross se dérouleront à 14h10 et 17h20. Voilà.
Sur cette épreuve, quelles seront les forces en présence, pouvons-nous dire ?
Les forces en présence, il y aura 13 nations représentées sur ce championnat d'Europe. Et il faut savoir que le leader du championnat d'Europe est un jeune Estonien de 17 ans qui s'appelle Kevin Tsar. Mais il aura fort à faire parce que ce sont des pilotes habitués à des circuits à terre meuble. Et côté Castelnau, qui a un circuit très dur avec une terre argileuse et du rocher, on peut attendre un nouvel exploit du cadurcien Adrian Mangieu, qui est quand même déjà vice-champion d'Europe 2016.
Ce qui n'est pas rien.
Qui n'a pas encore couru cette année puisqu'il était blessé et qui a toujours gagné à Castelnau. Et également d'un pilote italien qui s'appelle Andrea De Cesari, qui a fait 2 ou 3 épreuves du championnat de France, qu'il a gagné, et qui aime particulièrement ce type de circuit. Donc, un Estonien, un Français ou un Italien gagné à Castelnau, ça n'aurait rien d'étonnant.
Mis à part le cadurcien, il y a d'autres régionaux de l'étape ?
Mais il y aura deux régionaux, un pilote de Gimon qui s'appelle Florian Peroni et un autre pilote français qui s'appelle Boissier.
D'accord. Bon, on a vu que les prévisions météo sont assez bonnes. Je pense que l'épreuve va se dérouler dans une ambiance climatique assez agréable pour venir voir tous les champions qui seront réunis sur votre circuit du Puy-Champagne. Par contre, je vois qu'il y a une grosse organisation de bénévoles. Pouvez-vous nous parler un petit peu de tous ces bénévoles qui font vivre cet événement du motocross de Castelnau ?
Eh bien, les bénévoles, on en parlera plus particulièrement l'an prochain puisque ce sera le cinquantenaire du club. Mm-hmm. Et Castelnau, le motocross de Castelnau se veut dans une ambiance très conviviale et très associative qui fait qu'on arrive à maintenir entre les gens du village et des villages aux alentours 80 à 100 bénévoles en permanence, et le jour des manifestations on arrive à 200-250 bénévoles, et je crois que la vie associative, il faut le faire avec un esprit de convivialité et de partage, et tant qu'on comprendra ça, on arrivera à réunir du monde autour d'une association, et en tout cas on est fiers de le réaliser encore après 49 ans, puisque 50 ans c'est l'an prochain, au motocross de Castelnau de Lévis.
Bientôt un demi-siècle de motocross à Castelnau, et pour conclure on va dire que cette épreuve sportive, en plus d'être une épreuve sportive de renommée, maintenant devenue une véritable aventure humaine.
Oui, aventure humaine, bien sûr, mais bon, restons modestes. Je veux dire, nous sommes tous des bénévoles, nous n'avons pas les mêmes responsabilités sur le terrain, mais on a tous des responsabilités. Et donc, certes, c'est une belle aventure humaine, mais qui est à la portée de tous, dans la mesure où on essaie de comprendre certaines choses. Je veux dire, dans une association, on est dans le partage, on est dans un dictat, et il faut partager avec tout le monde.
Merci pour ces impressions, Alain Bosseveuf, et on vous attend toute la réussite pour épreuves de championnat d'Europe de quad cross. À très bientôt.
Merci à Radio Albigès, et on vous attend nombreux ce week-end à Castelnau.
Le message est passé, au revoir. Donc merci à, comme je disais, à Alain Bosseveuf, et je vous invite tous à aller dans ces championnats d'Europe de quad cross ce samedi et ce dimanche au circuit de Castelnau à Puy-Champagne. Allez, cette émission touche à sa fin et est écoutable en podcast sur les réseaux sociaux et sur le net, bien sûr. Un grand merci à Will pour la technique. Et sur ce, je vous laisse avec Azaf Avidan et The Mojo, One Day. Et vous dis à Desias, à l'LCA, à la SPTT et à mardi, 12h30.
Think about the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told. One day, baby.